6h04 minutes, mercredi 21 avril. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM, avec cet avertissement de neige, si on veut, pardon, pour la région de Montréal. Un peu, mais beaucoup pour d'autres régions comme l'Estrie, la Beauce, le Bas-Saint-Laurent. Alors, pour Montréal comme tel aujourd'hui, de la neige intermittente, une accumulation de 2 cm, température stable pas mal toute la journée, autour de 1 degré. Et c'est sûr que la neige ne restera pas au sol, là, parce que le sol est chaud. Mais quand même, ça peut être un petit peu, disons, désagréable. Neige intermittente ce soir, également des vents qui vont souffler de façon plus importante en fin de soirée. La nuit prochaine, c'est autour de moins 1. Demain, jeudi, pour Montréal, généralement nuageux, 5 degrés. Puis vendredi, ben là, on a du soleil 14 et puis samedi, du soleil 17. Donc, dépression, c'est un épisode, principalement aujourd'hui. Et ce sera un peu plus désagréable, je vous le disais tantôt, pour l'Estrie, pour le Bas-Saint-Laurent, entre autres, et pour la région de la Beauce. Beaucoup de choses dans l'actualité ce matin. Vaccination, le verdict dans le procès de l'ex-policier Derek Chauvin, donc qui est coupable, et jugement hier sur la loi québécoise sur la laïcité. Je vais commencer par la vaccination parce que beaucoup de gens se préparent ce matin à aller se faire vacciner. On sait qu'on est maintenant dans la catégorie 45 ans et plus, avec ou sans rendez-vous. Déjà hier soir, on a commencé à certains endroits à permettre cette vaccination. Là, je sais, il y a des cas isolés où là, des gens de 48 ans sont arrivés, ils n'ont pas pu se faire vacciner. D'autres ont pu, par exemple, au Palais des Congrès, être vaccinés. Alors, la politique maintenant est claire. 45 ans et plus, officiellement à compter d'aujourd'hui. Et ce que le ministre Dubé disait hier, présentez-vous tôt parce qu'il y aura des files d'attente. C'est pas très compliqué. On a un vaccin qui s'appelle AstraZeneca. On a beaucoup en inventaire. On a essayé de l'écouler depuis les derniers jours. Il a trouvé preneur, mais il y a un paquet de doses qui demeurent disponibles. Et là, le comité qui évalue les vaccins et qui conseille le gouvernement, dit très bien, allons-y à 45 ans. Avant, c'était à 55. Pourquoi 45? Pourquoi pas 40? Il y a eu toutes sortes d'explications hier, là, scientifiques, mais le comité recommande 45 ans. Ce qui fait que vous pouvez donc, si vous avez 45 ans, et là, je précise, parce que le ministère est plus clair qu'hier, puis que la semaine passée, là. Tu sais, au début, on nous disait l'année de naissance, c'est ce qui compte. Là, c'est la date anniversaire. Donc, il faut avoir 45 ans. Et je sais que dans beaucoup de centres de vaccination, on jouait cette carte-là. Puis je le répète, c'est pas moi qui décidais ça, là. Nous, on validait avec le ministère de la Santé, puis à chaque fois, le ministère disait non, non, c'est l'année, c'est pas la date de naissance. Là, ils ont changé d'idée, il faut croire. Et ils appliquent la décision en fonction de la date anniversaire. Mais il demeure quand même beaucoup de questions au sujet du vaccin d'AstraZeneca pour les femmes. Et ça, je peux comprendre. Beaucoup de courriels hier d'auditrices qui disent, écoutez, on veut se faire vacciner. On sait que les cas où il y a eu des complications, presque la totalité, ce sont des femmes, jeunes femmes qui sont impliquées. Et qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Je vais parler plus tard avec Dr Caroline Couache. Mais ce matin, dans Le Devoir, on revient là-dessus parce que c'est un casse-tête. Si vous êtes une femme puis que vous avez 47, 48 ans, mettons que vous fumez ou que vous avez peut-être d'autres conditions de santé, est-ce que vous allez vous faire vacciner avec AstraZeneca? Et Dr Diane Francoeur, qui, on le sait, est gynécologue, qui est l'ancienne présidente de la Fédération des médecins spécialistes, dit que pour bien des femmes de 45 à 55 ans, ça demeure un point d'interrogation. Et on ne sait pas, en général, quel est le risque réel pour de jeunes femmes. Les femmes ont déjà payé un prix fort dans cette pandémie. Est-ce qu'on va offrir des Pfizer pour minimiser les risques? On n'a pas de réponse. C'est une très bonne question. Et on peut comprendre ces inquiétudes. Et si on veut ajouter à la liste, il y a un communiqué qui est sorti ce matin, vous avez justement l'Association des obstétriciens gynécologues du Québec qui demande à la santé publique l'importance de reconnaître l'importance de la vaccination pour les femmes enceintes. Et là, on part d'une recommandation canadienne en disant que la vaccination des femmes enceintes est nécessaire, que les risques d'hospitalisation aux soins intensifs sont de 5 à 6 fois plus élevés chez les femmes enceintes que chez les femmes en général. Et c'est clair qu'il faut prioriser ces femmes-là dans cette campagne de vaccination. Déjà, hier, le ministre a dit, puis demain, on va avoir les détails, là, on va élargir. C'est vrai que c'était hyper pointu là, pour les gens qui étaient atteints de maladies chroniques. Il fallait être traité à l'hôpital, puis bon. Là, on va élargir aux handicapés physiques et intellectuels. On connaîtra les modalités demain. Mais est-ce qu'on va ajouter les femmes enceintes? Il me semble que durant le H1N1, elles étaient priorisées. Mais là, je vous dis ça de mémoire. Mais voyez que beaucoup de points d'interrogation pour des femmes qui se disent « Est-ce que j'attends? » Puis moi, je comprends ça, là, qu'il y ait cette réticence. Mais pour l'ensemble des gens, puis des hommes en particulier, on rappelle que ce vaccin-là est sécuritaire et que ce vaccin-là, quand vous calculez l'avantage et le risque, bien, il est positif dans la mesure où c'est mieux d'avoir ce vaccin-là que d'avoir la COVID avec toutes les complications qu'on connaît. Je vais revenir sur les autres aspects de la vaccination tantôt parce que je vais vous parler de ce verdict qui est tombé hier. Donc, l'ex-policier Derek Chauvin, coupable du meurtre de George Floyd. Et ce qu'on doit dire ce matin, il y a quelques éléments, là. Il a été reconnu coupable grâce à quoi? Grâce à cette vidéo qui a été tournée par une jeune femme, une adolescente, en fait, qui était présente. Elle s'appelle Darnella Fraser. Et elle, c'est 9 minutes et plus où on voit le policier exercer cette pression sur le cou de Floyd qui est coincé sur le pavé. Mais c'est grâce à elle. Et cette vidéo, en fait, ces images-là, sont allées pas mal en contradiction avec les premières versions données par le service de police. On n'était pas tout à fait dans la même description des faits. Et probablement que sans ces images, on n'aurait pas eu le verdict qu'on a eu hier. Et ce qui a amené aussi les experts, le chef de police, en témoignage, dire que le geste ou les gestes posés par Chauvin, ça allait à l'encontre des valeurs du service de police, puis à l'encontre des bonnes pratiques. C'est pas comme ça qu'on immobilise quelqu'un. Et quand cette personne-là répète une 20aine de fois « Je respire pas, j'ai de la misère à respirer », c'est pas normal, cette réaction du policier qui continue d'exercer cette pression-là. Et ce qu'il faut noter, c'est que hier, le verdict a été rendu rapidement, là. Une journée de délibération. Et un verdict coupable sur toute la ligne. Et on a vu Chauvin qui avait un regard de quelqu'un qui donnait l'impression de dire « Cette fois-là, ça n'a pas passé. » Il comprend très bien qu'il s'en va dedans pour longtemps. Et c'est dans 2 mois que la sentence sera connue. Et au même moment, vous avez cette jeune fille, 15-16 ans, Columbus, Ohio, qui a été abattue par la police. Alors, les policiers sont arrivés, on voit les images, là, répondent à un appel d'une jeune fille qui menace avec un couteau d'en blesser une autre. Et quand les policiers arrivent, bien là, ça dégénère, puis l'adolescente en question semble se diriger vers une autre avec couteau. Et c'est à ce moment-là que la police tire en sa direction et malheureusement, elle est décédée. Mais ça s'ajoute, vous le savez, puis là, faut décortiquer le contexte, mais ça s'ajoute à un autre cas, pas très loin d'ailleurs, du palais de justice, Dante Wright, qui a été abattu par la police. Un autre cas aussi d'un ado, où on disait, il est armé, mais l'arme a été retrouvée beaucoup plus loin, et on le voit, les dernières images, on voit les mains levées, et c'est à ce moment-là qu'il est abattu. Alors, depuis hier, vous entendez l'ensemble des commentaires du président Biden, qui insiste pour dire que la majorité des policiers se comportent correctement, mais qu'il faut être implacable à l'endroit de ceux et celles qui se servent de leur pouvoir et de leurs armes et qui tirent comme ça sur les gens ou encore qui posent des gestes comme Derek Chauvin. Beaucoup de soulagement au sein des différentes factions. On va parler avec plein de gens tantôt pour discuter de ça, mais c'est sûr que c'est un événement historique, ce qu'on a vécu hier aux États-Unis. Et ça amène une réflexion sur les relations globales entre les Noirs, les Blancs, les autres minorités, et aussi le rôle de la police. Puis n'oublions pas une chose. Contrairement à ici, c'est un pays où prolifèrent les armes à feu. Et les policiers, dans beaucoup d'interventions, beaucoup plus qu'ici, sont confrontés à des gens armés. Et bien sûr, des couteaux, mais aussi des armes de toute nature. Ça circule en masse. Pas tout à fait la même culture qu'ici. Parlons de la loi sur la laïcité, jugement qui a été rendu hier en Cour supérieure. Et disons-le tout de suite, le Québec va en appel. Puis c'est une bataille qui va se retrouver ultimement devant la Cour suprême du Canada. Alors, qu'est-ce que le jugement dit? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Premièrement, la loi sur la laïcité est maintenue. Elle est maintenue pourquoi? Parce qu'on a inclus les clauses dérogatoires. Donc, ça se soustrait à l'application des chartes. C'est bon pour une période de 5 ans. Le juge le souligne. En gros, ce qu'il dit, c'est que d'empêcher quelqu'un de porter un signe religieux, ça contrevient aux chartes, mais Québec a le droit, puis ça, il souligne le cas à plusieurs reprises, tout en trouvant que Québec ratisse large avec cette clause nonobstant, mais il dit qu'il a le droit de le faire. C'est pas à moi de porter un jugement là-dessus. Tout ce que je dis, c'est qu'il ratisse large, d'une part, mais en même temps, c'est une violation de droit. Mais la loi s'applique, sauf dans 2 cas qui sont intéressants. D'abord, et dangereux en même temps. D'abord, concernant les commissions scolaires anglophones. Ça veut dire qu'une enseignante qui veut porter un signe religieux comme le hijab ou un enseignant qui veut porter une croix ne peut pas le faire en français au Québec, donc dans le réseau public francophone, mais peut le faire dans une école anglophone. Là, on sépare le Québec en deux. Là, vous allez me dire pourquoi. Le juge estime que le rôle des structures scolaires c'est de faire la promotion, la protection de la langue de la minorité. Et par la langue, il entend la culture. Et par la culture, il entend, je dirais, tout le visage multiculturel et la promotion de la différence. Alors, il fait toute cette démarche-là pour nous dire que, dans le fond, les anglophones, qui ont le devoir de protéger la langue de la minorité, les structures scolaires, bien, ça va jusqu'à leur permettre d'autoriser le port de signes religieux. Fait que si tu es quelqu'un pour qui la religion est fondamentale dans ta vie et que tu veux enseigner, tu peux le faire en anglais, mais pas en français. Disons que c'est une large définition de la culture, mais appuyée sur d'autres jugements. Et aussi le fait que quelqu'un puisse ultimement être masqué à l'Assemblée nationale, donc visage couvert. La logique, elle est la suivante. As-tu le droit de te présenter à une élection? Tu es une citoyenne, tu es un citoyen, oui. Puis tu portes tes signes religieux, puis tu portes, mettons, un masque. Bien, si tu as le droit de te présenter, tu as le droit de siéger. Alors, je ne peux pas t'interdire, puis ça ne fait pas partie des règles que l'Assemblée nationale peut édicter. Alors, on comprend que ça a amené une réaction à Québec. François Legault dit « c'est pas normal qu'on ait le Québec en deux ». Simon-Jolin Barrette dit « on s'en va en appel ». D'autres groupes trouve que la loi est encore trop sévère, trop restrictive. Mais en bout de ligne, on peut quand même se dire une chose. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, il n'y a pas eu le psychodrame que beaucoup anticipaient. Il y a eu quelques cas, puis les cas ont été notamment plaidés en cour, mais tout ça n'est pas réglé parce que tout ça va s'étirer dans le temps. Et c'est sûr que ça devient, encore une fois, ça ramène cette question-là qui est extrêmement sensible. Alors, on aura l'occasion d'y revenir avec Bernard et nos commissaires ce matin. Également, ce qu'on peut ajouter dans l'actualité, je pense, c'est d'abord les dépistages rapides. Je vais y revenir, là, quand je parlais de vaccination tantôt, là, puis de la pression sur le réseau de la santé. C'est que Radio-Canada nous dit ce matin, puis on donne un exemple. Puis c'est toujours dur à comprendre que le mammouth a de la misère à se revirer de bord, là. Mais les employés de l'Institut de cardiologie, moi, je savais qu'ils étaient testés régulièrement, là. Mais donc, les employés et leurs familles se testent à domicile 2 fois par semaine. Puis là, on a des millions de tests comme ça, là. Puis le déploiement, puis on est dans la bureaucratie jusqu'aux oreilles. Alors, tu peux faire de l'autodépistage. C'est une pratique en vigueur au Royaume-Uni. Et donc, l'Institut de cardiologie de Montréal en distribue des milliers à ses employés et leurs familles. Depuis le 9 avril, le personnel est invité à s'auto-tester 2 fois par semaine et le test donne des résultats en 15 minutes. Jusqu'à maintenant, là, on a écoulé au Québec 2 % des tests reçus du gouvernement fédéral. 2 %. C'est très peu. Ça, puis pas vouloir en distribuer, c'est pareil, là. On comprend qu'il n'est pas parfait, mais si on est capable de l'utiliser à l'Institut de cardiologie, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire ailleurs, primo. Et deuxièmement, plus on teste, plus on est capable, surtout en milieu de travail, puis je rappelle là, que c'est le principal foyer d'éclosion. C'est là que ça se passe, dans les écoles. Il me semble qu'on devrait maximiser l'utilisation. Puis à chaque fois que tu dis ça, là, tu te fais répondre que c'est hyper compliqué. Bien, il faut croire qu'à l'Institut de cardiologie, ils ont trouvé la recette. Ils ont pensé en dehors de la boîte, puis ils sont capables, disons, de procéder plus rapidement. Et l'autre chose, toujours en marge de la COVID, hier au point de presse, on nous a expliqué que pour ce qui est des déplacements entre les provinces, la crainte des variants qu'on trouve principalement, exemple en Colombie-Britannique, variant brésilien, parce que celui qu'on a ici, Afrique du Sud un peu, mais beaucoup britannique, on envisage, on jongle avec des idées de restrictions de déplacement. Puis je le sais que vous êtes en train de planifier vos vacances, là. Puis certains se disent, je ne peux pas aller aux États-Unis, je ne peux pas aller en Europe vraiment, donc peut-être voyager à travers le Canada. Est-ce qu'il y aura des mesures plus strictes qui limitent les déplacements? Peut-être, disons que c'est à voir puis à surveiller. Et puis un mot aussi sur ce qui se passe avec l'opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, qui est en grève de la faim. Plusieurs médecins, dont son médecin personnel, disent que, d'après ce qu'on comprend, son état de santé s'est détérioré. D'abord, les médecins ont été refoulés. On sait qu'il est hospitalisé, mais dans une prison. Et que les dernières nouvelles, c'est qu'il a officiellement cessé de s'alimenter depuis 3 semaines. Et que depuis qu'il est à l'hôpital, donc, pas de contact avec ses médecins. Il est vu par d'autres médecins, mais pas ses médecins. Puis là, vous êtes en Russie, puis vous connaissez le régime. Puis quand Navalny dit qu'il est un prisonnier politique, idéologique, et là, les experts disent que quand tu fais une grève la faim, bien, la crainte première, c'est un arrêt cardiaque. Alors, il veut ainsi montrer que ses conditions de détention sont absolument inadmissibles, qu'il est victime d'abus. Et Biden a dit, entre autres, que s'il arrive quelque chose à Navalny, les Russes devront répondre. C'est devenu un enjeu diplomatique important entre les deux pays. Il est 6h23. Les ponts de la Rive-Sud, monsieur.